Vous écoutez
RMC.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Danjean, Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RMC et RMC Story. On est mardi 2 juin. Très bon réveil. Bon réveil, Élise. Enfin, on est réveillé depuis un moment quand même.
Bah oui,
ça va ?
Ça commence à remonter. Bonjour tout le monde. Oui, ça
bien.
Va.
Oui, Géraldine Demory.
Très bien.
Tout le monde va bien ?
Bah oui.
Ça va se rafraîchir aujourd'hui, c'est ça le programme ?
Ah, ça se rafraîchit et c'est agité aujourd'hui.
On va avoir l'occasion d'y revenir. Bon, ce matin sur RMC, on va vous révéler en exclusivité une étude sur l'état psychologique des salariés français. Je voudrais que vous écoutiez bien, parce qu'il y a quelques chiffres, mais vous allez sûrement vous reconnaître et on a besoin de vos témoignages pour avancer. Un salarié sur deux se dit en détresse psychologique. Un chiffre qui est en hausse pour 83% des sondés. Cet état est directement lié au travail.
On est convié à toutes les réunions, ensuite on nous demande de ne pas parler. Ça nous donne un sentiment d'être décideur, mais finalement pas du tout, on n'est qu'exécuteur. Très vite, j'ai eu vraiment du mal à me lever le matin, ça pèse beaucoup sur le moral.
Des salariés qui éprouvent un manque de sens, mais c'est pas tout. Hein. Comment est-ce que le travail impacte votre santé psy ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce genre de témoignages ? Stress, burn-out, dépression, 60% des salariés ont l'impression, comme on vient de l'entendre, d'être de simples exécutants. La moitié disent avoir de moins en moins de temps pour faire un travail de qualité. Alors si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez, ou si vous êtes employeur, manager, oui. Dites-nous comment vous gérez cette situation dans votre entreprise. On en parle au 3216 et sur le WhatsApp de l'émission.
On n'en parlait pas avant, hein. Comment on se sent mentalement, psychologiquement.
Et d'ailleurs,
au boulot.
C'est chez les jeunes que les chiffres sont les plus critiques, ouais. Parce que ce sont ceux qui se saisissent le plus de ces questions-là.
Qui ont libéré la parole aussi sur ce sujet-là. Parlons-en. Moi, mais même les managers, hein, j'ai vraiment envie d'entendre comment on gère cette question-là aujourd'hui dans le monde du travail. Vous êtes les bienvenus ici au 32-16. On va revenir aujourd'hui, bien sûr, sur les débordements qui ont suivi le sacre du PSG en Ligue des Champions, avec d'abord les premières comparutions immédiates. Pas de mandat de dépôt pour l'instant, une quinzaine hier soir, de la prison ferme, des amendes de 1000 à 2000 euros.
J'aurais dû écouter mon père et ma femme. Ils m'ont dit de pas y aller et ils m'ont dit que j'allais finir en garde à vue. Ça a pas loupé. Je vous dis clairement, j'ai eu peur de partir en prison et c'était ma première expérience, mais je pense pas recommencer, je vous le dis tout de suite.
Toujours écouter son père et sa femme. Bon, le président avait réclamé de la fermeté. Est-ce que le compte y est à vos yeux? Est-ce qu'il la faut, cette fermeté, rapidement, contre ces casseurs, contre ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre? On détaille tous ces jugements dans nos journaux, mais réagissez déjà au 3216 et au 0612 424 424 sur le WhatsApp de l'émission.
Ça me vient comme ça. Ce sont les premières comparutions immédiates. Il y en aura d'autres, rien ne dit que les condamnations seront les mêmes, mais bon, c'est des premiers enseignements après un débat, parce qu'il y a quand même beaucoup de réactions politiques, hein, vous l'avez entendu ces dernières heures. Dans la réalité, la préfecture a affirmé qu'il y avait moins de faits de violence qui ont été commis que l'an dernier. Et alors, les images ont évidemment choqué. Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, tous affirment que les condamnés doivent rembourser les dégâts. On a même entendu l'expression « à l'euro près, tu casses, tu payes ». Au gouvernement, on parle d'un problème d'éducation de nos fils, dit même Maud Bréjon, je pense à ce monsieur qui aurait dû écouter sa femme et son père.
Oui.
Est-ce qu'il y a un sujet d'éducation de la jeunesse? Ça fait partie du débat aussi avec vous ce matin.
Et d'une manière générale, on a aussi beaucoup comparé avec les célébrations du rugby. Est-ce qu'il y a un sujet football à vos yeux? Est-ce que vous avez la parole ce matin? Le débat continue sur RMC. Et puis la Coupe du Monde 2026, avec des billets beaucoup trop chers.
Ce que fait la FIFA avec ses prix, c'est presque criminel. Je connais plein de monde qui ne peuvent pas se permettre d'y aller. Ce n'est pas une compétition pour les fans, c'est uniquement pour faire de l'argent.
Est-ce que vous y allez déjà? Parce que je sais qu'il y a quand même un contingent de supporters des Bleus qui se déplacent à chaque fois avec eux. Et j'ai envie de parier que ces supporters-là écoutent RMC. Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous avez renoncé à suivre les Bleus cette fois-ci alors que vous y étiez allé d'autres fois? Vous nous le dites au 32-16 ce matin.
Et puis l'autre question, c'est est-ce que on peut vraiment faire la fête dans un pays qui n'aime pas vraiment le foot, à qui faut expliquer la règle du hors-jeu? Est-ce qu'on gâche la fête aussi par le profit? On en parlera ce matin avec Martin Bourdin qui est en direct de Miami. Ce sera à 5h10. Mais en attendant, vous avez la parole dès maintenant au 32-16. Clément vous attend au standard et on lira vos messages sur WhatsApp.
Bonjour. Mot caché, bien sûr, comme tous les matins, on prononce un mot qui sort de l'ordinaire. Si vous l'avez identifié, vous envoyez mot au 732-16 pour gagner le cadre connecté, le cadre photo connecté d'Agfa Photo. C'est le cadeau de la semaine, mot au 732-16.
La météo, Géraldine Demory, ça se gâte à partir d'aujourd'hui?
Exactement, ça va être un temps très agité pour aujourd'hui. On a des pluies orageuses qui vont traverser tout le pays, donc ça commence par le nord-ouest ce matin, et puis ça va se décaler progressivement dans l'est en courant de la journée. Et c'est vraiment cet après-midi sur les régions les plus à l'est qu'on va avoir les orages les plus forts, avec de grosses rafales pas le devant, et des risques de grêle, mais vraiment, personne n'y échappera aujourd'hui. Les températures, alors ce matin, elles sont encore assez douces. Elles vont dégringoler cet après-midi. On aura 18 à 22 degrés pour la moitié nord, 21 à 24 degrés en général au sud et 25 à 27 si vous êtes au bord de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
5h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 5h, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, la mise en examen du suspect dans le Gers.
L'homme de 41 ans, interpellé pour la disparition de la jeune Liana. Il a été écroué dans la soirée et les recherches poursuivent. Vous l'entendrez pourtant en train de retrouver l'adolescente de 11 ans. Les premières peines sont tombées après les violences de samedi en marge de la finale de Ligue des Champions, jusqu'à un an de prison, mais aucun mandat de dépôt. Autrement dit, personne derrière les barreaux. Et êtes-vous heureux au travail? Ce matin, un Français sur deux se dit en détresse psychologique, selon un baromètre qu'on vous dévoile sur RMC ce matin.
Les recherches continuent dans le Gers.
Oui, pour tenter de retrouver Liana, l'adolescente de 11 ans, donc introuvable hein, depuis qu'elle est sortie de son collège vendredi dernier à Fleurance dans le Gers, et depuis qu'elle est montée dans la voiture d'un suspect de 41 ans qui a été mis en examen pour enlèvement et placé en détention provisoire dans la soirée. Les recherches se poursuivent dans les environs de Fleurance avec encore une battue citoyenne qui était organisée hier. C'est ce que nous dit Pierre Borges, notre correspondant dans la région.
Au sud de Fleurance, les battues continuent dans la forêt. Les gendarmes avancent en ligne entre les ronces et les branches. Ces zones boisées particulièrement denses font l'objet de toutes les attentions, explique le colonel Philippe de Lafourcade.
Les bois, les forêts sont toujours quelque part des lieux de dissimulation possible, de cachette possible. Voilà, donc tous ces critères nous conduisent à faire des vérifications assez exhaustives de ces zones particulières.
Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique survole la zone en appui. Plus loin, des plongeurs inspectent les cours d'eau aux alentours, mais aucune trace de la fillette brune aux yeux marrons. Les parents de Liana ont toujours espoir de retrouver leur fille, indique leur avocat François Rougeau de Boubé.
C'est tout ce qu'il leur reste. Ils ont la colère, bien sûr, de ne pas savoir, la tristesse de l'incompréhension, mais ils gardent un espoir sans faille.
Hier soir, une quarantaine de maires des communes alentours se sont également retrouvés lors d'une réunion pour tenter de faciliter les recherches sur leur territoire.
Autre affaire, une collégienne de 14 ans placée en garde à vue hier pour avoir porté des coups de couteau à une élève de son établissement, de sa classe, âgée de 15 ans, à la sortie de leur école. C'était à Villeneuve-Tolosa, dans Haute-Garonne, sur fond de harcèlement et même de violences scolaires.
Il est 5h03 sur RMC et les premières condamnations sont donc tombées après les violences de samedi dans la foulée du sacre du Paris Saint-Germain.
Emmanuel Macron, vous le savez, avait promis d'être intraitable avec les casseurs. Et bien hier, 13 personnes étaient jugées en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Paris, souvent pour tir ou pour détention de mortier d'artifice. Parmi eux, un certain Théo, 24 ans, condamné donc à 10 mois de prison avec sursis pour violence sur policier. Il a jeté une chaise sur un policier et détention d'engins explosifs parce qu'il a été interpellé avec un mortier dissimulé sous son t-shirt. Son père a pris la parole, écouté au micro de RMC.
On peut faire la fête sans amener de projectiles, sans amener de choses interdites. Voilà, ils l'ont très bien expliqué à Théo. On lui avait dit aussi, hein, de base, on lui avait dit de pas y aller parce que ça servait à rien d'y aller après le match. Il a voulu y aller quand même, puis voilà, il n'a pas eu de chance. Mais d'un autre côté, il a eu de la chance quand même parce que il fait pas de prison, c'est sa première, ça lui sert de leçon et puis à l'avenir, il fera attention. Enfin, il avait les larmes aux yeux, ça se voyait et puis voilà, il a compris la chose et puis encore une fois, ça sert de leçon.
Alors la peine la plus lourde, c'est un an de prison dont 6 mois ferme aménageable pour violence sur policier. D'autres peines de 10 mois de prison ferme mais aménagées sous bracelet électronique ont été prononcées contre 22 personnes qui étaient jugées en reconnaissant leur culpabilité. Bref, au final, personne n'a dormi en prison cette nuit.
Et vous l'aviez entendu, dimanche, Emmanuel Macron a promis la plus grande fermeté en la matière. Est-ce que le compte y est? Déjà, on vous pose la question. Effectivement, personne n'est en prison cette nuit. Alors attention, sur les premières comparutions, d'autres arrivent. Ne tirons pas d'enseignement, mais pour l'instant, on va essayer de l'expliquer. Quelles explications? Manque de peur de la sanction, problème d'éducation, disait Maud Bréjon hier. On vous attend ce matin au 32-16, n'hésitez pas.
Il est 5h07 et les déboires continuent pour la verrerie d'Uralex.
Connue pour ses fameux verres incassables, elle a été placée en redressement judiciaire hier devant le tribunal de commerce d'Orléans pour la 5e fois de son histoire, avec 6 mois pour se refaire une santé financière. Elle qui a été reprise par ses salariés en 2024, qui emploie toujours 243 personnes. Cette fois, Lucas Lobert pour RMC, d'Uralex évoque des tensions de trésorerie.
L'entreprise évoque des problèmes de stock avec notamment des ruptures sur des produits emblématiques, mais aussi l'envolée du coût des matières premières en début d'année. Résultat, des comptes dans le rouge. En mai, les salariés n'ont reçu que la moitié de leur salaire, une situation qu'ils sentaient venir, explique Pascal Sudre, secrétaire général de la CGT Loiret.
Depuis plusieurs semaines, il n'y avait pas beaucoup de travail, il n'y avait plus qu'une chaîne de production qui tournait sur les cinq.
En avril, le directeur général et le directeur financier avaient été mis à pied. Pascal Sudre compte sur la nouvelle direction pour redresser la barre.
Il faut vraiment qu'on ait une direction digne de ce nom, qui soit là pour assurer et garantir l'activité d'aujourd'hui, mais surtout l'activité de demain.
Placée sous la protection du tribunal de commerce d'Orléans, la verrerie va devoir rétablir ses comptes dans les 6 mois qui lui sont donnés. Pascal Delima est chef économiste au cabinet Nova Minds.
Si le redressement fonctionne, les emplois peuvent être préservés. Si la situation reste trop dégradée, il y a évidemment des restructurations qui doivent, dans ce cadre-là, être réenvisagées.
L'économiste prévient, pour ceux qui ont investi lors de la levée de fonds en 2025, rien ne garantit qu'ils pourront récupérer leur argent.
On vous dévoile ce matin sur RMC le tout dernier baromètre sur l'état psychologique des Français qui travaillent. Il a été réalisé par le cabinet Empreinte Humaine, par l'Institut Ipsos BVA. Et alors, il nous apprend qu'un salarié sur deux se dit en détresse psychologique, proportion qui n'a jamais été aussi élevée depuis l'existence de ce baromètre. Et pour 83% d'entre eux, cet état est directement lié au travail. Louis Salé, pour RMC, vous confirmez un prêt de Paris dans le quartier d'affaires de la Défense.
L'impression de n'être qu'un simple exécutant qui ne réfléchit pas, c'est ce que ressent Reda. À 22 ans, il coordonne les tâches de différentes équipes.
Toute l'existence du métier est un support à des fonctions plus importantes. On est convié à toutes les réunions, et ensuite on nous demande de ne pas parler. Ça nous donne un sentiment d'être décideur, mais finalement pas du tout, on n'est qu'exécuteur. Très vite, j'ai eu vraiment du mal à me lever le matin, ça pèse beaucoup sur le moral.
Agathe, 25 ans, souffre parfois d'un manque de reconnaissance.
Quand on n'a pas d'expérience, c'est un peu, toi tu vas faire les présentations PowerPoint, mais par contre, ton avis, ton opinion, on n'y donne pas trop d'importance.
D'autres disent avoir du mal à tenir des délais trop courts pour fournir un travail de qualité. Stress, épuisement, voire dépression se manifestent chez les moins de 30 ans, plus à l'écoute aussi de leur santé mentale que leurs aînés.
On est sur une population qui s'exprime davantage et qui exprime davantage des attentes.
Florian Trane est psychologue du travail.
Ça va aussi avoir des conséquences sur l'entreprise. Et donc, les entreprises aujourd'hui ont tout intérêt à s'intéresser à ce sujet-là.
Chez les moins de 30 ans, justement, l'absentéisme explose. Un arrêt maladie sur deux est lié à un problème de santé mentale.
Vous allez réagir ce matin au 32-16. On a évoqué déjà le sujet stress, pression, burn-out. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette étude? Il y a d'autres choses, la quête de sens aussi, le sentiment que son job ne sert pas ou qu'on n'est pas écouté. Vous témoignez au 32-16. On attend en particulier aussi vos témoignages de manager, de gérant de boîte. Comment est-ce qu'on gère ces questions-là psychologiques aujourd'hui au travail? Stéphane est manager, il sera en direct avec nous après ce journal.
C'est le début des quarts de finale aujourd'hui à Roland-Garros que vous suivez sur RMC, avec notamment les pépites de 19 ans, le Brésilien João Fonseca, l'Espagnol Rafael Jodar, mais sans tricolore puisque il n'y a plus de Français depuis hier et l'élimination de Diane Paris. Hier, plusieurs joueurs du PSG, dont Ousmane Dembélé, ont présenté la Ligue des Champions devant le public de Roland-Garros avant de rejoindre les Bleus aujourd'hui à Clairefontaine et de déjeuner avec Emmanuel Macron, c'était prévu. Tiens, Emmanuel Macron qui va regretter Didier Deschamps. Il le dit, le président, ce matin dans une interview au journal Ouest France, en saluant, et alors je le cite, sa force tranquille, son calme face à l'adversité et ses exceptionnelles qualités humaines.
Merci Quentin Vinet, c'était le journal de 5h et on va tout de suite accueillir Stéphane au 32-16. Stéphane, justement, qui voulait réagir sur l'un des sujets qu'on a développé dans votre journal, Quentin, à savoir la question de la santé psychologique des salariés. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Comment ça va ce matin, Stéphane?
Ça va, matinale parce que je vais au sport, mais ça va.
Ah, c'est pour aller au sport, pas pour aller au boulot encore. Vous êtes directeur relations clients, c'est ça?
C'est ça.
Vous avez des équipes sous votre
on a des
management
équipes qui, exactement, on a des équipes qui sont un peu compliquées en ce moment de par la conjoncture. Et donc nous, on nous demande de faire un peu le faiseur de miracles entre la direction qui nous demande de faire un peu place nette sur les éventuelles possibilités de départ en licenciement déguisé, et à côté on nous demande à côté de favoriser l'entraide interne et de jouer des managers super sympas au sein de l'équipe. Donc pour nous c'est très compliqué en tant que directeur, en tant que manager de production, etc. Et on vit ça depuis près, et moi je le vois aussi chez plein de mes collègues, pas forcément à la même boîte où je travaille, mais c'est vraiment aujourd'hui le centre du manager aussi est très 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 compliqué actuellement, parce qu'on nous demande de faire des, on nous demande le mouton à cinq pattes alors qu'on n'est pas des moutons à cinq pattes.
En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la santé mentale et psychologique des salariés, mais ça inclut évidemment les managers qui ont ce rôle de tampon, comme vous l'expliquez, Stéphane. C'est-à-dire que vous non plus, ça va pas bien les managers, en fait. C'est pas que les simples exécutants, entre guillemets.
Ouais, puisqu'on est aussi exécutants, nous, de la direction.
Donc, ouais, en fait, vous sentez pris en étau entre les deux, Stéphane.
C'est des trucs de dingue qu'on vit. Moi, je sais que j'ai des collègues qui ont fait des burn-out de 6 mois et que j'ai plus revu depuis 6 mois. Et qui veulent ni décrocher le téléphone, ni quoi que ce soit, en fait.
Et Stéphane, pardonnez-moi, mais est-ce que dans votre entreprise, il y a des possibilités d'en parler, de faire évoluer les choses? Est-ce que ces questions-là, elles viennent sur la table? On n'en parlait pas avant, Stéphane.
C'est très tabou pour les managers, parce qu'on est censé être des super-hommes, des super-femmes, mais les conseillers sont très peu aidés, et même quand c'est aidé, c'est très montré du doigt. C'est où est-ce que tu vas? Ah, tu vas voir la psy, etc. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. C'est très compliqué.
Est-ce que vous avez des remontées des gens qui sont en dessous de vous, des N-1, N-2, que vous n'arrivez pas à faire remonter justement à cause de ça?
Si, j'essaie de faire remonter auprès de la RH, c'est ce qu'on nous demande de faire, par les canaux de distribution, les canaux de communication que l'on a en interne. Mais après, on peut plus aller au-delà. On a un sentiment d'inefficacité, nous, avec les équipes, parce qu'on veut pas tout leur dire, et en même temps, on doit les faire bosser. Donc, on peut pas tout leur dire, mais en même temps, on est sur le poids et l'enclume. En fait, c'est compliqué. Très, très compliqué. Et même pour les conseillers, des fois, c'est incroyable. On leur fait changer de poste du jour au lendemain, sans rien leur dire, alors que le matin, on leur disait blanc, et puis l'après-midi, on leur dit noir. On vit des trucs de dingue dans les services clients. Des trucs de dingue, hein. C'est inimaginable.
Non, mais moi, merci Stéphane. Hein. Ce témoignage est très précieux parce que vous êtes à la fois entre votre hiérarchie et les gens que vous managez. Et, pardon, vous avez utilisé un autre mot, il y a le service client. C'est que vous êtes vraiment pris dans un tourbillon. Et Stéphane, ce témoignage, il permet de lancer le débat ce matin. Merci, vous êtes le premier aujourd'hui. Évidemment que ce sujet vous concerne. La détresse psychologique au travail. Vous la connaissez, vous reconnaissez dans ce qu'on décrit. Vous témoignez comme Stéphane au 32-16 et vous serez en direct avec nous sur RMC. Merci encore Stéphane d'avoir pris la parole.
Il est 5h12 et dans un instant, c'est l'heure de la solution conso avec toi Géraldine Demory.
Je me suis intéressée aux applis météo ce matin. On va voir s'il y en a qui valent le coup ou pas.
Ah, vous en utilisez, vous, des applis météo?
Évidemment, tous les matins. Désolé, Géraldine.
Quentin, vous avez une appli météo, vous?
Celle du téléphone.
Celle du téléphone?
Ah, on va voir ça.
Déjà un début de réponse. Attention. On va demander à Martin Bourdin quel temps il fait à Miami, aux États-Unis. Bonjour, Martin. Bon, il fait nuit, là, je crois, surtout.
Bonjour à tous. Il fait nuit, il y a de l'orage de temps en temps, et puis il fait beau après. C'est un peu la Bretagne à Miami.
Bon, Martin, vous êtes l'envoyé spécial des États-Unis. Comment l'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir cet événement mondial de la Coupe du Monde 2026 qui démarre le 11 juin. Vous le savez, hein, ça commence en ce moment sur RMC. Nous, on perd pas de temps. Et alors, Martin, cette Coupe du Monde, c'est un petit choc culturel pour les Américains.
Ouais, ça fait 32 ans qu'ils n'ont pas accueilli la Coupe du Monde. Alors, beaucoup doivent réapprendre, au mieux apprendre, même tout simplement pour certains, certaines règles de base.
Bon, tout de suite en direct de Miami, on dit, je crois, sur My RMC et RMC Story, tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h14 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
Et la Coupe du Monde 2026 a déjà commencé sur RMC. Toute cette semaine, dans le choix de la rédaction en direct, on va prendre la température aux États-Unis, comprendre comment l'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir le monde.
Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Notre envoyé spécial aux États-Unis, toujours à Miami. Les Américains vont donc découvrir ou redécouvrir le foot. 32 ans après la dernière Coupe du Monde aux États-Unis, 1994, ils ne sont pas forcément tous prêts, Martin.
Ouais, et pour être complètement au point d'ici le 11 juin, le début de la Coupe du Monde, les Américains peuvent compter sur la Bible du sport. Ici, aux États-Unis, le site ESPN qui a carrément consacré un article entier il y a quelques semaines pour expliquer à ses lecteurs, souvent des amateurs de sport, la règle du hors-jeu. Vous voyez, on part de loin quand même pour certains. J'ai quand même vu quelques adolescents, rassurez-vous, jouer au soccer. Rarement sur des terrains de foot, plus souvent sur des terrains de foot américains sur lesquels on avait installé des buts. On le sait, les Américains et le foot, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. Léo et Chuck me l'ont très vite fait comprendre. Ce sont tout simplement les deux premières personnes que j'ai interviewées ici. Et visiblement, j'étais légèrement trop enthousiaste pour eux au sujet de ce mondial.
Ça ne m'intéresse pas. Je ne connais même pas les équipes, je ne connais pas les joueurs, je ne connais rien et je n'ai pas envie de connaître. Ce ne sont que des enfants gâtés, glorifiés, que les enfants prennent pour des héros. Ce ne sont pas des héros.
Je m'en fiche, je déteste le foot. Moi, je suis fan de hockey, donc le foot, je déteste. Les footballeurs, ils sont toujours à se rouler par terre. J'aime les sports de dur, moi, donc je ne peux pas regarder le foot, c'est trop lent pour moi.
C'est un discours que vous entendez souvent depuis que vous êtes arrivé, Martin ?
Ouais, c'est un discours que j'entends assez régulièrement, notamment autour des baskets, de terrains de basket autour desquels j'ai pu traîner. Et je l'ai pris en pleine face, ce désintérêt pour le soccer samedi lors de la finale de la Ligue des Champions. J'ai regardé le match dans un sports bar, un lieu où il y a plein d'écrans partout, du sport en continu. Le match était partout, mais on n'était pas vraiment nombreux, 10 peut-être grand maximum, à vraiment suivre le match. Et personne n'a compris pourquoi à la fin. J'ai sauté de ma chaise, j'ai explosé de joie quand Arsenal a raté son dernier tir au but. Mathieu, j'aurais bien voulu que vous soyez là.
Mais Miami, c'est là où joue Léo Messi quand même. Enfin, pardon, ça a un peu changé le regard des gens, j'imagine, en Floride.
Oui, bien sûr, ça a fait changer le regard des gens. Ce n'est pas forcément encore le grand amour, mais l'arrivée de Messi en 2023 a rendu le foot plus visible. Miami, c'est peut-être désormais la grande ville de soccer aux États-Unis, aussi parce que beaucoup de Sud-Américains et d'Européens vivent ici et eux veulent profiter de cette Coupe du Monde. Encore faut-il en avoir les moyens. J'ai croisé un Espagnol qui m'a dit avoir dépensé 4 300 $ pour voir 4 rencontres de ce mondial.
4 300 $ pour 4 matchs, c'est insensé, hein.
Eh ben Donald Trump serait d'accord avec vous, Élise. Il a avoué, le président américain, qu'il n'aurait pas non plus payé ces sommes-là s'il avait eu à le faire. Et encore, 4 300 $, c'est sans compter le prix des transports ou du parking sur place. Ici, à Miami, au Miami Stadium, par exemple, pour garer sa voiture les jours de match, ça coûtera entre 175 et 250 $ la journée. Ça rend fou les fans ici, qui se sentent du coup exclus de ce mondial. Et ils le disent avec des mots très forts, comme ceux employés par Sanel. Lui a fini par arrêter de chercher des tickets.
J'ai vu des billets pour un match à Toronto, c'était plus de 20 000 $. Il faut mettre des limites. Ce que fait la FIFA avec ses prix, c'est presque criminel. Ça me révolte ce qu'ils font cette année. Ils gagnent de l'argent sur la vente et sur la revente de billets. Ce sont nous, les fans, qui en sommes victimes. Je connais plein de gens qui ne peuvent pas se permettre d'y aller. Ce n'est pas une compétition pour les fans, c'est uniquement pour faire de l'argent.
Attendez, il y a un truc qui est inquiétant quand même pour l'organisation de cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on risque d'avoir des stades à moitié vides, Martin ?
C'est la crainte, évidemment. Ici aux États-Unis, un média américain spécialisé dans le sport révélait ce week-end que 10 000 places étaient encore en vente pour le match d'ouverture de Team USA contre le Paraguay. Alors ici à Miami, les fans de foot que j'ai rencontrés suivront les rencontres soit chez eux, soit dans les sports bars, loin des stades. Donc les places les moins chères ici sont à plus de 250 $. Elles étaient à plus de 250 $ pour Arabie Saoudite. Uruguay, pas vraiment l'affiche du siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à moins de 600 $. Alors, un promoteur immobilier de Miami a lancé une offre il y a quelques semaines de ça. Un appartement acheté, 2 billets offerts. Je les ai appelés pour savoir si ça avait un peu boosté les ventes, mais ils n'ont jamais répondu.
Oui, bientôt, on va arriver à un billet acheté, un appartement offert.
Ouais, c'est vrai, ça va être ça.
Bon, Martin, merci. Merci beaucoup en direct de Miami, Martin. Aux États-Unis, on va vous retrouver toute cette semaine au Texas aussi. Je vous rappelle que RMC est radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2016. 100% des 104 matchs du mondial commentés en direct sur RMC.
Par contre, on est en 2026, hein, Mathieu. On est plus en 2016.
Ah ouais, le temps passe à une vitesse. C'était l'Euro en France 2016. Oui. Souvenez-vous. 2026. Non, mais alors, justement, vous suivez les Bleus. Moi, peut-être que vous êtes allé au Qatar, peut-être que vous êtes allé en Russie à l'époque, peut-être que vous êtes allé en Allemagne, en Afrique du Sud, je sais pas. Vous avez l'habitude de suivre les Bleus. Est-ce que vous y allez cette fois ? Combien ça vous a coûté ? Et puis surtout, est-ce que vous avez renoncé à y aller à cause des conditions, justement ? On vous attend au 32-16. N'hésitez surtout pas. Vous serez en direct aussi ce matin sur RMC, 5h19.
Et c'est l'heure des choix de la bande avec les infos qu'on a dénichées dans la presse. C'est l'heure aussi de dire bonjour à Arthur Asquin.
Bonjour
Arthur, ce matin.
Ça va, bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour Géraldine.
Ça va, Arthur ?
Bonjour à tous.
Oui, vous allez prendre des places pour le mondial ? Non.
Ah bah non, hein, je vais pas prendre de place pour le mondial. Entre ça et les vacances, faut choisir.
Il a choisi les vacances.
Et le carburant.
Voilà. Et oui. Le kérosène dans l'avion.
Ouais. Alors, vas-y, j'en prie.
Bon, je vais pas te fâcher. Hein.
Non, mais je.
Bon, je vais vous parler d'une fête de famille ce matin, la plus grande fête de famille au monde qui s'est tenue le week-end dernier en Irlande. Alors, famille, c'est peut-être un peu exagéré. Enfin, on a quand même plus de 1 800 personnes qui portent l'exact même nom de famille qui se sont réunies, des homonymes. Et alors, ceux qui ont battu le record, car oui, ça a fait l'objet d'un tout nouveau record du monde, s'appelle. Vous voulez deviner ou pas ? En Irlande.
C'est écrit en fait.
Ah oups. Bon bah oui, Sullivan. Voilà.
Sullivan.
Pas très original. C'est un peu les Dupont irlandais. Ouais, mais alors ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont détrôné les Gallagher, qui détenaient le record depuis quand même 2007.
Ah, il y a tant de Gallagher que ça.
Eh oui. Là voilà, ce week-end, il y avait plus de 1800 Sullivan ou O'Sullivan. Hein, on accepte.
Ah bah voilà, aussi, bah c'est pour ça.
Qui se sont rassemblés. On a en France, on attend le rassemblement des. Bah
ouais,
Dupont,
des Dupont, des Martins, ouais, ouais. Je suis d'accord. On part. Bah moi, je vous emmène à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, c'est plus près. Avec cette décision qui fait polémique, figurez-vous que depuis deux semaines, les garçons du collège Le Pesquier n'ont plus de papier toilette dans les WC. La principale a pris cette mesure après des dégradations du papier mouillé projeté sur les murs, les portes, le sol, même le plafond. Bref, les toilettes sont dégueu. C'est indéniable. Il y a des comportements inadmissibles. Personne ne dit le contraire. Le problème, c'est que les parents dénoncent une punition collective. Ce qui, rappelons-le, est interdit. Décision jugée injuste et contraire aux règles de l'éducation nationale. Il y a des élèves qui viennent désormais avec leurs propres rouleaux ou des mouchoirs. La direction, qui était sans doute au bout du rouleau, hein.
Excellent.
Elle assure que le papier reste disponible auprès de la vie scolaire. Enfin, vous imaginez. Bonjour madame, j'aurais allé aux toilettes. Non, bon, bref.
Combien de feuilles?
Ouais, exactement. Ouais, c'est... Le conseil d'administration doit examiner le dossier cette semaine. Mais remettez du papier toilette. Enfin, je veux dire, j'ai besoin d'organiser un conseil d'administration. Venez, on remet du papier toilette.
En même temps, s'ils en sont arrivés à cette décision, c'est que ça allait vraiment être terrible, quoi.
Non, bah.
Que les gamins faisaient vraiment n'importe quoi.
Mais les gamins font n'importe quoi.
Ah, oui. Enfin,
les toilettes des garçons au collège, lycée, c'est pas nouveau, je pense. Non.
Ouais, enfin, non.
Vous me racontiez votre enfant.
Je racontais rien du tout.
Non, vous nous emmenez dans la Sarthe, Arthur.
Ouais, avec une autre histoire incroyable. Une inauguration samedi dernier. Christophe Libert, le maire de la Fontaine Saint-Martin, il devait installer le nouveau coq en haut du clocher de l'église à 25 mètres de hauteur. Bon, ça marquait la fin des travaux de plusieurs mois. Sauf que la nacelle est tombée en panne, c'est ballot. Donc le maire et ses deux adjoints se sont retrouvés coincés dans les airs avec le coq dans les mains pendant plusieurs longues minutes. Il a confié ensuite qu'il n'a pas fait le malin en haut, et en attendant les réparations, le trio en a profité pour prendre des belles photos. Une fois la grue réparée, le coq a été ramené au sol pour être béni par le curé avant que le maire ne remonte une deuxième fois pour poser la sculpture.
Au deuxième départ, il a dû avoir un petit frisson.
Ouais, après ça, on l'entend, le coq. Il va bien.
C'est important. C'est produit, hein, chronique.
Ouais.
Merci. Pour une bien belle anecdote. Il est 5h23. Élise, les trois grands titres de l'actualité.
Et les premières comparutions immédiates après les débordements ce week-end en marge du deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions. Une quinzaine au total, avec des peines allant jusqu'à 12 mois de prison, dont 6 mois ferme aménageable. Les amendes vont-elles de 1000 à 2000 euros? Le principal suspect dans la disparition de la jeune Liana dans le Gers a lui été mis en examen et placé en détention provisoire, mais on est toujours sans nouvelles de la collégienne de 11 ans disparue depuis vendredi après-midi. Et puis plus aucun Français engagé à Roland-Garros après l'élimination hier de Diane Paris en 8e de finale par la Polonaise Maja Chwalinska.
Il est 5h23.
RMC, la solution conso.
Et tous les matins, Géraldine a ses astuces pour notre consommation. On va s'intéresser ce matin à un objet de notre quotidien, enfin un objet virtuel du quotidien, les applis météo. Je sais que vous détestez quand on regarde la météo sur l'appli du téléphone, Géraldine. Soyons honnêtes, c'est pas si nul que ça.
Si, c'est nul, vraiment.
Mais non.
La météo que vous avez dans votre iPhone, votre Samsung, la météo que vous avez de base, oui, elle est nulle. Mais il y a une très bonne raison pour ça, c'est parce que les prévisions sont basées sur les modèles météo américains. Alors donc, peut-être que ça marche pour New York, j'ai pas vérifié, mais pour Toulouse, non, ça marche pas. Vous avez une chance sur deux, hein, finalement, que ça tombe juste. En France, on a un modèle météo qui s'appelle AROM. Lui, il est vraiment zoomé sur l'Hexagone et la Corse, et c'est ce qui permet de prendre en compte plein de phénomènes très localisés comme les brouillards, comme les orages, comme les îlots urbains en cas de forte chaleur. Mais de toute façon, un modèle météo, ça suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du travail des météorologues, parce qu'ils vont étudier plusieurs modèles météo, ils vont faire des recoupements, des observations sur le terrain, tout analyser, et ça va donner vraiment des prévisions fiables. Il y a une autre limite aussi aux applis, c'est le dérèglement climatique. On a une multiplication des phénomènes météo extrêmes, et ça, les modèles n'aiment pas du tout, même si avec l'IA, c'est un petit peu en train de s'améliorer, mais ça remplace vraiment pas l'analyse humaine.
Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de vous, Géraldine. Mais alors, faut toutes les jeter? Il y en a même pas une qui trouve grâce à vos yeux?
Alors, faut pas toutes les jeter. Il n'y a pas d'appli parfaite, ça c'est sûr. Mais il y en a qui sont quand même meilleures que les autres. Vous avez des applis comme Météo Ciel qui, eux, vont compiler plusieurs modèles météo, puis qui offrent plein d'outils météorologues pour les météorologues en herbe. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Les applis ultra spécialisées sont plutôt pas mal aussi. Par exemple, les des applis de météo agricole. Vous avez aussi Windsurf qui est spécialisé sur les conditions météo au bord des océans pour les surfeurs. Donc, pour des prévisions à court terme, vous avez des applis comme Rain Today ou Météo et Radar. Bah, celle-là, c'est ma préférée.
Météo Radar, c'est ma préférée.
Voilà,
c'est
on est d'accord. Là, ces deux-là, elles sont bien et on peut voir les précipitations en temps réel.
Enfin, c'est Rain Today que j'utilise quand je suis off, hein, parce qu'en général, je demande à Géraldine.
Ça va plus vite. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous allez vraiment savoir si vous allez pouvoir maintenir votre déjeuner en terrasse à midi, par exemple. J'aime bien aussi Acme Weather. Alors, pas forcément parce que c'est la plus fiable, mais justement parce qu'elle reconnaît qu'elle peut pas être sûre à 100% du temps qu'il va faire. Et donc, elle va plutôt donner une fourchette de température, par exemple. Donc, bon, voilà. Elle admet que elle a ses limites.
Non. Moi, je préfère les plus fiables, quand même.
Mais le meilleur moyen, effectivement, de connaître le temps, c'est d'écouter RMC, puisque nous, on a la chance de travailler avec les météorologues de Météo France. Donc... Merci Fabien.
Qui vont apprécier. Hein. On les salue.
Bah oui, pour un très bon travail.
Un service public Météo France avec lequel vous travaillez tous les matins pour ces bulletins qu'on comprend surtout. C'est quand même la difficulté avec la météo. Bien comprendre ce qu'on nous explique. Merci Géraldine. Il est 5h26.
La conso sur RMC avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, dans un instant, c'est le meilleur d'Arnaud Demanche et vous au 32-16. À tout de suite.
5h-7h.
5-7. Le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h28 sur RMC. On joue au mot caché, comme tous les matins. Vous le savez, on va prononcer un mot qui sort de l'ordinaire. Vous l'entendez, vous envoyez mot par SMS au 732-16.
Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner votre cadre photo connecté Agfa Photo.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Jouez au mot caché sur RMC avec les cadres photo numériques connectés d'Agfa Photo qui affichent instantanément les photos et vidéos envoyées de votre téléphone d'où que vous soyez.
Allez, c'est le meilleur d'Arnaud Demanche. Allez, hier, c'était la fête des mères, Arnaud.
Oui, et je sais, Apo, que vous avez été gâté puisque vos enfants se sont cotisés pour vous offrir un jerrycan d'essence, les braves petits, avec la poésie habituelle. Maman, tu es la plus belle des mamans, mais comme il y a la guerre en Iran, tu ne peux plus te déplacer, nous conduire aux activités. Alors nous t'offrons de l'essence pour profiter de notre enfance. Ouais, ça va, j'ai compris. Ouais. Je suis taxi, quoi. Alors j'ai lu que Total Energy avait décidé de baisser le prix des carburants pour la fête des mères et la fête des pères. C'est beau quand même, une multinationale qui pense à la famille. Est-ce qu'ils nous feront le pétrole moins cher pour la crémation de mamie aussi? Alors du coup, c'était une bonne ambiance chez Total tout le week-end. Bonjour, le plein de sans-plomb 95, s'il vous plaît.
Oh mais oui, vous allez chez vos parents pour leur souhaiter une bonne fête?
Alors, non, c'est parce que je suis orphelin.
Ah bah non, monsieur, désolé. Pas de maman, pas de carburant.
Oh non.
C'est la règle. Pas de daron, pas de sans-plomb. Allez, fous le camp de ma station, Rémi sans famille. Ouais, ils sont pas gentils.
Dimanche, Arnaud, qu'on retrouve à 7h20 et 8h20 en direct dans Apolline Matin, bien entendu. Il est presque dans le journal.
Ouais, et avant, c'est l'heure de la météo avec une météo qui se gâte, Géraldine.
Eh oui, les orages, ça y est, qui arrivent avec donc des pluies orageuses qui arrivent par le nord-ouest, qui vont traverser tout le pays, qu'on va retrouver dans l'est cet après-midi. C'est là qu'on va avoir les orages les plus violents avec de fortes rafales de vent et avec de la grêle, mais vraiment personne n'y échappera. Les températures, c'est encore de la douceur pour ce matin, mais ça va dégringoler cet après-midi. Comptez 18 à 22 degrés pour la moitié nord, généralement 21 à 24. Au sud, jusqu'à 27 si vous êtes près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Il est 5h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
C'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Jusqu'à 6 mois de prison ferme.
Les premiers jugements en marche des débordements de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Vous entendrez le témoignage RMC d'un homme condamné à du sursis pour avoir ciblé des policiers. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, une proposition de loi pour réduire le taux de cadmium dans notre alimentation. Et puis Emmanuel Macron attendu du côté de Clairefontaine ce midi pour un déjeuner avec les Bleus à 9 jours du début de la Coupe du Monde.
Le gouvernement rejette toute responsabilité dans les violences de samedi soir.
En marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions, les autorités défendent leur dispositif de sécurité. Au total, près de 900 personnes ont été interpellées en France. 13 d'entre eux ont déjà été jugés hier en comparution immédiate. Accusés pour certains de dégradation ou violence contre les forces de l'ordre, l'un d'entre eux a notamment été condamné à 6 mois de prison ferme. Les autres ont majoritairement écopé de peines avec sursis et d'amende. C'est le cas de Théo, 24 24 ans, reconnu coupable de violence sur policiers et détention d'engins explosifs. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Julie Brault l'a rencontré pour RMC.
Maillot du PSG encore sur le dos, les traits tirés, Théo tombe dans les bras de sa femme et de son père à la sortie du tribunal.
J'aurais dû écouter mon père et ma femme. Ils m'ont dit de pas y aller et ils m'ont dit que j'allais finir en garde à vue. Ça a pas loupé. Je regrette largement parce que j'ai pas eu mon fils pendant 4 jours, donc là je suis pressé de rentrer d'aller le voir quoi.
Car pour ce père de famille, la fête fut courte. Le soir de la victoire du PSG, à peine descendu de sa voiture, il se fait contrôler alors qu'il est en possession de 7 fumigènes et un mortier d'artifice.
Quand vous voyez 8 policiers cagoulés avec des matraques et un bouclier, ça fait peur, quoi.
L'homme de 24 ans prend alors la fuite, lance une chaise, blessant un policier avant d'être interpellé, mais il assure qu'il ne voulait pas commettre de violence.
Moi, comme je dis, je reste supporter. Oui, j'aurais craqué quelques fumigènes, mais pas pour blesser des gens. Ni les forces de l'ordre ne sont pas là pour être blessés non plus. Je vous dis clairement, j'ai eu peur de partir en prison. C'était ma première expérience, mais je ne pense pas recommencer, je vous le dis tout de suite.
Condamné à 10 mois de prison avec sursis, Théo assure avoir bien retenu la leçon. Lui qui promet désormais de célébrer les futures victoires du PSG chez lui, en famille, sur son canapé.
Alors, est-ce que ces sanctions vous semblent suffisantes? Vous nous le dites ce matin au 3216 et sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
On est toujours sans nouvelles de Liana ce matin à Florence, dans le Gers, où d'importants moyens sont toujours mobilisés pour tenter de retrouver la collégienne de 11 ans, disparue depuis vendredi. Hier, le père de l'une de ses amies, suspect dans cette affaire, a été mis en examen, écroué pour enlèvement et séquestration de mineurs de 15 ans. On vous en parlait hier, la loi post-Betaram adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le texte prévoit de mieux protéger les enfants contre les violences à l'école et dans le périscolaire. Un autre sujet sur la table des députés ce mardi, le cadmium, avec une proposition de loi appelant à réduire le taux de ce métal lourd dans l'alimentation. On le retrouve dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, soupçonné aussi d'être responsable de nombreux cancers, celui du pancréas notamment, et dont le nombre a été multiplié par 4 en 30 ans. Face à ce scandale sanitaire, victimes et proches de victimes tentent de s'organiser. Parmi eux, Aurélien, il vient de lancer une pétition pour réclamer une limitation du taux de cadmium autorisé en France. Bérangère Bocquillon l'a rencontré. C'est un reportage RMC.
Aurélien a 25 ans. Il a perdu sa mère en décembre dernier.
Elle avait 58 ans.
Un cancer du pancréas diagnostiqué à peine 3 mois plus tôt.
Il n'y avait quasiment pas de symptômes. C'est aussi pour ça que le cancer du pancréas est si mortel, parce qu'on s'en rend compte relativement tard. À partir du moment où le diagnostic était posé, on savait qu'elle allait mourir.
Une femme jusque-là en pleine santé. Aurélien soupçonne le cadmium d'être à l'origine de sa maladie. Car le lien entre ce métal lourd et le cancer du pancréas a récemment été souligné par l'Agence nationale de sécurité alimentaire. Il a donc lancé une pétition pour exiger moins de cadmium dans nos assiettes.
Cette mesure, elle coûte presque rien et il y a un bénéfice énorme en termes de santé publique et qu'on pourrait sauver des vies.
Cancer, maladie rénale, ostéoporose, le cadmium est aussi toxique pour la fertilité. Aurélien entend mener ce combat pour toutes les victimes de ce poison lent.
Il y a un sentiment d'injustice énorme. J'ai envie de la garder, je pense, un petit peu cette rage qui m'habite. Ma maman, c'était quelqu'un d'extrêmement bon et faire en sorte qu'elle ne soit pas morte pour rien.
En France, nous sommes 3 à 4 fois plus contaminés que nos voisins européens.
On va en parler avec vous ce matin et avec le docteur Pierre Souvet qui sera à 7h10 au micro d'Apolline tout à l'heure. Il alerte clairement sur ces polluants cachés de notre alimentation. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Qu'est-ce qu'on peut manger, ne pas manger en toute sécurité? Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Je vous demande pas si vous êtes en train de lire sur les boîtes s'il y a écrit du cadmium. Il y a 6 mois, on connaissait pas le mot. Mais c'est quand même un peu préoccupant ce qu'on retrouve dans notre alimentation. Est-ce qu'il faut réglementer? Vous savez ce qu'on va dire après, qu'il y a trop de normes. Est-ce qu'il faut réglementer justement l'utilisation des engrais qui font qu'on retrouve ce cadmium dans notre alimentation? Ça fait partie des débats aujourd'hui. Vous souhaitez réagir, vous êtes peut-être agriculteur. Tiens, n'hésitez pas, 32-16 ce matin.
Il n'y aura pas d'armes offensives israéliennes au salon Eurosatory de Villepinte, l'un des plus grands rassemblements du secteur de l'armement au monde. Comme l'an dernier, Cyprien Pézril, la décision vient de la France sur fond de tensions au Moyen-Orient.
Oui, seul ce qui permet à une armée de se défendre pourra être exposé par les industriels israéliens. En clair, ce qui relève de la défense aérienne ou antimissile, une décision prise à l'Elysée selon l'organisateur du salon, qui va donc devoir l'appliquer comme lors de la précédente édition en 2024. À l'heure où Paris dénonce les agissements de l'armée israélienne au Liban et à Gaza, l'objectif est de restreindre au maximum la présence des industriels de l'État hébreu. Les armes qui permettent d'attaquer sont donc bannies et on considère que beaucoup de leurs armes sont offensives, reconnaît un conseiller de l'exécutif. Cette décision, elle fait hurler le ministre israélien de la Défense. Il dénonce un calcul politique et prétend même que la France se place du mauvais côté de l'histoire. Cette interdiction prive aussi son industrie d'opportunités commerciales, alors que ce salon est l'un des plus importants de la planète.
Et la tension qui continue de s'accentuer ce matin au Moyen-Orient. Le Hezbollah revendique des attaques contre des cibles israéliennes dans le sud du Liban. L'État hébreu dit aussi avoir intercepté des projectiles en provenance du Liban. Inquiétude dans la région, alors que Donald Trump affirmait hier avoir obtenu des deux camps un accord de cessez-le-feu.
Il est 5h37 sur RMC et il n'y a donc plus de Français ce matin à Roland-Garros.
Après l'élimination de Diane Paris, balayée en 2-7 hier, à suivre aujourd'hui sur RMC, la radio digitale 100% a battu la révélation de ce tournoi, l'Espagnol Rafael Jodar face au deuxième joueur mondial Alexander Zverev. Le public de Roland-Garros qui a pu apercevoir le trophée de la Ligue des Champions présenté par les joueurs français du PSG. Ils sont 5, ils vont rejoindre Clairefontaine ce mardi avant d'affronter la Côte d'Ivoire dans deux jours à l'approche de la Coupe du Monde. Les Bleus au complet avec William Saliba touché au dos lors de la finale de la Ligue des Champions. Les nouvelles concernant le défenseur d'Arsenal sont plutôt rassurantes, Valentin Germain.
Oui, William Saliba a bien joué les 120 minutes de la finale sans problème apparent et pourtant le défenseur a ressenti des douleurs au dos où il avait déjà été gêné ces derniers temps. Le joueur d'Arsenal a passé des examens hier, ses proches et le staff des Bleus ne montrent pas de grande inquiétude, mais ils seront vigilants car Saliba est très important. Titulaire lors du dernier Euro, il avait même fait partie de l'équipe type du tournoi. Il devrait être préservé au moins lors du premier match amical contre la Côte d'Ivoire jeudi, voire plus longtemps, mais rejoindra donc bien les autres Bleu aujourd'hui, tout comme les 5 Parisiens champions d'Europe, Doué, Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez et Dembélé. Tous vont rencontrer Emmanuel Macron qui vient rendre visite à l'équipe de France ce mardi midi.
Et la Coupe du Monde qui sera à vivre sur AMC Radio officielle de la compétition.
Et les courses, Thibaut, c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud.
Et c'est à 13h55, le 8 Avia sort et le favori de la Dream Team AMC, l'outsider, c'est le 3 Another Light, le 8 et le 3.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal sur RMC, vous allez continuer à réagir comme vous le faites nombreux ce matin aux différents sujets, notamment ces comparutions immédiates qui vous ont fait réagir, comme Olivier qui est dans le Pas-de-Calais ce matin au 32-16 transporteur. Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tout le monde, bonjour.
Olivier, vous êtes évidemment, vous faites partie de ceux qui appellent à des sanctions plus fortes.
Oui, c'est chaud.
Olivier, vous êtes sur la route, on ne vous a pas entendu.
Oui, là vous m'entendez mieux.
Oui, bougez pas.
Je disais, ça m'a choqué bien sûr comme tout le monde, mais c'était prévisible malheureusement dans une société devenue de plus en plus violente. Mais je me demande aussi si certains médias ou réseaux sociaux n'ont pas attisé cela en amont. Un petit peu à l'exemple de cette voiture qu'on a connue il y a plus d'une vingtaine d'années, qui ont commencé à Strasbourg il me semble, et d'année en année, plus les médias en parlaient, plus ça flambait quoi. Donc voilà.
Ah, c'est compliqué ce débat, Olivier. Je vois ce que vous voulez dire. Hein. Et en même temps, on a aussi d'ailleurs fait monter la pression d'une certaine manière dans les jours qui ont précédé, le dispositif policier, comment on va s'organiser, on craint des débordements. Maintenant, on fait quoi, Olivier? Vous savez, quand on voit les images qu'on a vues à Paris, sur le périphérique, près du Parc des Princes, qu'est-ce qu'on fait? On va pas ne pas en parler, Olivier?
Non, mais tout à
fait. Ah, Olivier, je suis embêté par le réseau. Vous m'entendez, Olivier?
Il pose
une bonne question, Olivier. Pardon, vous êtes là?
Oui, je suis là, oui.
Pardon, on ne vous a pas entendu sur la dernière phrase, allez-y.
Oui, non, bien sûr, c'est condamnable à 150%, mais ce que je veux dire, est-ce que malheureusement, ça n'a pas joué un petit peu d'en parler? Je ne dis pas qu'on parle.
Olivier, je suis désolé, on va couper parce que la liaison est pas bonne. Je trouve qu'il pose une excellente question parce qu'en fait, on a aussi un effet, pardonnez-moi, à montrer ces images sans arrêt, etc. C'est un effet loupe sur le phénomène. Et en même temps, nous, sincèrement, on se pose la question. On va pas ne pas en parler. On a des voitures brûlées, on a des blessés, on a des gens qui tirent au mortier sur les policiers. Alors, ces images impressionnantes, est-ce que ça donne envie à d'autres de réaliser les mêmes images? J'ai pas la réponse à cette question, mais merci Olivier d'avoir pris part au débat et posons-nous aussi la question de notre traitement de cette information-là. Vous avez tout à fait raison, Olivier, de le dire au 32-16 ce matin. Il est 5h40.
Et on en vient à présent à la Coupe du Monde, J-9. Et bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu.
De quoi on parle ce matin?
Le château, vous savez, c'est parfois comme ça qu'on appelle l'Élysée. C'est aussi comme ça qu'on surnomme Clairefontaine. Ça tombe bien, parce qu'Emmanuel Macron va voir les Bleus aujourd'hui.
Et puis un maire de Corrèze qui a eu cette idée, écoutez bien, fabriquer ses propres radars. Alors attention, il ne flash pas, il n'en aurait pas le droit. Il n'inflige aucune amende, mais pourtant ça marche. Laurent Dartout, maire de Malmort, nous explique son initiative dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 5h42 sur RMC et RMC Story.
RMC, le mondial de Virginie.
mondial de Virginie Fulpin, ça claque tous les matins, franchement. Ah ouais, j'adore votre jingle.
Vous êtes jaloux un peu. Hein.
Bientôt, on aura le mondial de Mathieu Ellis, que le premier Mathieu. Bon, cette Coupe du Monde, elle commence dans 9 jours aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et alors aujourd'hui, Virginie Fulpin, on a Emmanuel Macron qui va rendre visite à l'équipe de France à Clairefontaine.
Aller voir les Bleus avant une Coupe du Monde, c'est une tradition depuis Jacques Chirac en 1998.
Je pense que je devrais pouvoir remettre à l'équipe de France la Coupe Jules Rimet le 12 juillet. Alors je m'entraîne moi aussi.
Voilà, Jacques Chirac a bien fait de s'entraîner, je crois qu'on s'en souvient, les Bleus ont gagné cette Coupe du Monde. Le président avait embrassé le crâne de Fabien Barthez après la victoire, comme le faisait Laurent Blanc, un élan de sympathie pour celui qui disait qu'il aimait plus les footballeurs que le football. Et c'était aussi, évidemment, une façon de surfer sur la victoire.
Hein. Pardonnez-moi, il n'était pas si bien entraîné, hein, parce que si vous vous souvenez, quand ils viennent après le 12 juillet 98, il dit les Bleus avec la Coupe de France, monde.
Oui, voilà.
C'est devenu un passage obligé, la visite à Clairefontaine pour les présidents aujourd'hui.
Un petit peu de superstition sans doute. Hein. Les présidents se prennent de bonne grâce à ces visites toujours assez détendues. Nicolas Sarkozy, fan de football et notamment du Paris Saint-Germain, était lui allé voir les Bleus avant l'Euro 2008 en faisant un petit clin d'œil à Raymond Domenech.
Football, il y a un point commun avec la politique. C'est que tous les Français sont sélectionneurs et tous les Français sont présidents de la République. Du moins, ils ont une idée sur la façon dont on doit être sélectionneur et la façon dont on doit être président de la République.
Alors on a François Hollande aussi qui est passé à Clairefontaine.
Oui, lui, il est footballeur à ses heures perdues. Hein. Il ne demandait pas de victoire aux Bleus pour la Coupe du Monde 2014. Il voulait surtout que ce ne se reproduise pas la honte de l'Afrique du Sud et de la grève des joueurs 4 ans plus tôt.
Quoi qu'il arrive, donnez le meilleur de vous-même. En donnant le meilleur de vous-même, vous donnerez le meilleur à la France.
Bon, ils sont présidents, ils sont pas coachs. Hein. Les Bleus qui étaient allés jusqu'en quart de finale au Brésil.
Emmanuel Macron, lui, il va vivre la troisième Coupe du Monde en tant que président.
Ouais, en plus, pour l'instant, on peut dire il est gâté, une victoire en 2018. On avait vu le président absolument déchaîné en tribune en Russie et transcendé lors de la Garden Party de l'Elysée juste après.
Merci d'avoir apporté cette coupe.
Alors en 2022, la France est donc allée en finale au Qatar, battue par l'Argentine au tir au but. Emmanuel Macron était allé consoler Kylian Mbappé sur le terrain. Il avait reçu d'ailleurs beaucoup de critiques pour ça. Kylian Mbappé n'avait pas l'air vraiment ravi que ça se produise d'ailleurs. Et dans le vestiaire, après la défaite, il y avait encore un peu de football et un peu de politique.
En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France.
Voilà, c'est toujours étonnant, les vive la République et vive la France dans un vestiaire. Et puis c'est toujours plutôt à double tranchant, hein, les relations entre un président et l'équipe de France. À la fois, on surfe, on fait de la communication, mais ça peut être dangereux.
Bon, ce qui est à double tranchant aussi, Virginie, ce sont les nouvelles règles d'arbitrage pour cette Coupe du Monde.
Hop, 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 on perd pas de temps. Ça pourrait être le sous-titre des nouvelles règles. Hein. Oui, parce qu'il y a des nouvelles règles. Exemple, quand un joueur va se faire remplacer par un autre, il aura 10 secondes chrono pour sortir du terrain. Sinon, le remplaçant devra attendre l'arrêt de jeu suivant pour entrer sur la pelouse et donc laisser son équipe à 10 pendant un moment. Ça a été essayé lors d'Islande-Japon dimanche soir. Vu que les Islandais n'avaient pas l'air très très au courant, ils se sont fait piéger. Et le Japon a marqué l'unique but du match pendant que l'Islande jouait à 10. Je sens que ça va être marrant, cette Coupe du Monde. En plus, les joueurs n'auront plus le droit de parler, vous savez, avec la main devant la bouche, comme ils adorent le faire, là. Enfin, c'est quand il y a une action conflictuelle. Donc, autant dire qu'il va falloir savoir quand c'est conflictuel ou quand on peut se parler. On va rigoler.
Moi, je dis la passe de 3 pour Emmanuel Macron. Souhaitons ça au bleu. Quand même, 2018-2022, allons en finale, au moins. Non, il y a un alignement de planètes. Non, mais
bien sûr, gagnons-la.
La 6IJ est totale.
On leur souhaite la
6IJ. Merci Virginie Poulpin. Pardon.
Et on joue ce matin, oui, pendant que Mathieu
se reprend. Je rebois une gorgée de
café.
Voilà.
On joue ce matin au mot caché avec un mot qui sort de l'ordinaire qu'on a prononcé relativement récemment. Mathieu s'en est même étouffé. Alors si vous l'avez identifié, vous envoyez mot au 732-16, mot au 732-16 pour remporter votre cadre photo connecté Agfa Photo. Vous pourrez envoyer toutes vos photos sur le cadre avec votre téléphone. Voilà, c'est super. Vous envoyez mot au 732-16. C'est super. Hein,
ouais, mais pardon, depuis qu'on parle de Céline Dion, on passe jamais à I'm Alive.
Ouais, c'est vrai. Ouais,
j'adore cette chanson.
Eh
oui, l'info qui a sans doute ravi les fans de Céline Dion hier. Après le raz-de-marée provoqué par l'annonce de son retour sur scène, la chanteuse québécoise ajoute 10 nouvelles dates à Paris, la Défense Arena, pour mai 2027. Pour mieux répondre, je cite, à une demande sans précédent, sans blague. Au total, ce sont 330 000 billets supplémentaires qui sont mis en vente. Alors attention, hein, toutefois, la vente sera réservée aux personnes déjà inscrites pour les ventes précédentes. commence à 10h demain sur le site de Céline Dion, jeudi sur celui de la Paris de la Défense Arena. Faut dire que l'engouement a été spectaculaire. Les 16 premiers concerts annoncés à Paris entre septembre et octobre prochain, c'était plus de 500 000 billets vendus en quelques heures, un record pour la salle. À 58 ans, Céline Dion confirme son grand retour sur scène après plusieurs années marquées, vous le savez, par des problèmes de santé. Retour sur scène et dans nos oreilles, rappelons-le, avec le titre « Dansons » écrit par Goldman et sorti en avril. Voilà, allez, on quitte la playlist de Virginie Fulpin. Il est 5h48. C'est l'heure des grands titres de l'actualité, Elise.
Et les premières comparutions immédiates après les débordements ce week-end en marge du deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions. Une quinzaine de comparutions immédiates avec des peines qui vont jusqu'à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes aménageables. Mais aucun mandat de dépôt, ça veut dire personne derrière les barreaux. La mise en examen du suspect dans le Gers, l'homme de 41 ans interpellé ce week-end pour la disparition de la jeune Liana. Il a été écroué dans la soirée et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver l'adolescente de 11 ans. Et puis, plus aucun Français engagé à Roland-Garros après l'élimination hier de Diane Parry en 8e de finale par la Polonaise Maja Chwalinska.
RMC, à votre service.
Bonjour Laurent Dartout.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Malemort, près de Brive, en Corrèze, et vous avez fait fabriquer par vos services techniques, j'adore cette histoire, 2 faux radars pour moins de 1000 euros pièce. Et ça marche. D'abord, comment est-ce que vous avez eu l'idée d'installer ces faux radars ?
L'idée est venue tout simplement où je suis un automobiliste qui a perdu quelques points et je me rendais compte que chaque fois que je passais devant un radar de chantier, je ralentissais. Et je me suis dit un jour, mais est-ce que réellement c'est un vrai radar ? Et l'idée est venue de faire un faux radar pour faire ralentir les gens. Je peux vous assurer que ça marche mieux que de mettre un panneau. Et voilà. Sauf que la presse s'en est emparée. Depuis, le poteau rose a été découvert.
Ah bah oui, parce que en fait, ça ne fonctionne plus maintenant.
C'est plus difficile. Alors, il y a quand même le doute. Donc, vous avez toujours la voiture devant qui a le doute, qui ralentit et tout. Oui. Donc, les administrés qui ont ce radar à côté en sont ravis, en tout cas.
En fait, c'est plus pour ceux qui vivent en dehors de la ville et qui n'en auraient pas entendu parler, quoi.
Voilà. Après, la police municipale a un vrai radar. Hein. C'est un peu comme un train. Vous savez, avant, on disait un train peut en cacher un autre. Et là, un radar peut aussi en cacher un autre. Hein.
Et vous avez installé comment ? Comment vous avez choisi les endroits où ils sont installés ?
On a un endroit qui est extrêmement accidentogène, où on a beaucoup de petites ruelles qui donnent sur une départementale. Ça roulait assez vite, limité à 70, mais c'était souvent 90-100 km/h. Et près d'un EHPAD, où nos papy-mamies vont se promener, surtout par les temps que nous avons aujourd'hui. Et il y a eu aussi un ou deux accrochages. Et donc, le rôle d'un maire est de faire attention à sa population. Et c'est pour ça qu'on les a installés à ces endroits.
Mais c'est légal, Laurent Dartout, de faire ça ?
Mais pourquoi ça serait illégal ? C'est un peu comme si vous aviez une poubelle sur le bas-côté. Là, c'est en tôle, c'est sur le bas-côté de la route. Il n'y a rien d'illégal de poser quelque chose sur le bas-côté. Et la préfecture en est contente parce que on a fait ça pour faire réduire la vitesse, pour qu'il y ait moins d'accidents. Avec quand même une vertu importante, c'est que ça ne coûte rien à l'automobiliste. Il n'y a pas de problème de points, il n'y a pas de problème d'amende.
Mais
et ça
Dartout...
fait ralentir.
Est-ce que ça veut dire que les riverains peuvent le faire aussi ? Et je pense à ceux notamment qui vivent aux abords de routes très passantes où les limitations sont très peu respectées. Est-ce que, en tant que riveraine, je peux poser un radar, un faux radar en bas de chez moi pour essayer de faire
automobilistes lèvent le pied ? Le maire a quand même quelques pouvoirs de police qu'un administré ne peut pas avoir. Et il faut faire aussi attention à l'endroit où il est posé, que ça ne pose pas plus de troubles que ça n'apporte davantage. Donc... Ouais. Tout le monde ne peut pas poser son radar. Et heureusement d'ailleurs.
C'est le maire et ses pouvoirs de police, quoi. Mais alors Laurent Dartout, vous comptez aller plus loin ? Vous allez en installer d'autres ? Vous allez,
en fabriquer pour vous. On va les déplacer, mais il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2027, la législation évolue et qu'un maire pourra, une municipalité pourra acheter un vrai radar et le faire installer. Et mon idée, elle est d'avoir un vrai radar et plusieurs faux et que les gens ne sachent pas où est le vrai du faux pour... pas pour embêter la population, mais pour le bien-être de mes administrés. Vous savez, quand vous êtes maire et qu'à 22h, un dimanche soir, vous allez sonner chez un papa et une maman pour annoncer le décès du fils, c'est quelque chose qui vous marque à vie. C'est un vrai tatouage que vous avez.
Laurent Dartout, c'est pas la première fois que j'entends ça de la part d'élus locaux. Ça, c'est un vrai traumatisme sur le mandat d'un maire et clairement, ça revient. Je voudrais juste avoir un mot quand même aussi pour le maire de Cléry-Sauchois. C'est dans la Somme. Près d'Amiens, on en parle ce matin dans nos journaux. Il venait de demander à un automobiliste qui traversait sa commune à vive allure de ralentir. Il a reçu un coup de poing de la part du passager du véhicule. Pas facile aussi de maintenir l'ordre dans les petites communes et de garantir une sécurité routière. Fallait qu'on ait un mot quand même pour cet élu que vous entendrez dans les journaux d'RMC.
Ben oui, le maire, vous savez, c'est l'élu de proximité, celui qui vit au pays, celui qui est là et qui des fois, eh bien, aujourd'hui est malmené. Et beaucoup de maires sont de plus en plus malmenés dans notre pays, hélas.
Merci beaucoup Laurent Dartout d'avoir témoigné ce matin. Vous êtes peut-être le maire de Malemort en Corrèze.
Il y a un jour de pluie et d'orage, là, peut-être petit atelier de fabrication de foie radar avec mes enfants à la maison.
Oui, on
va installer ça dans le village.
Non, ça, t'as pas le droit,
ça va calmer un peu
c'est
les enfants.
C'est illégal, Mathieu.
Oui, mais je vais pas écrire mon nom dessus. Voilà.
Bon. Allez, il est 5h54 sur RMC. Et tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
Arthur, l'armée israélienne a déclaré avoir, je cite, capturé le château de Beaufort. C'est une forteresse médiévale qui est au sud du Liban.
Oui, et c'est tout un symbole. Le château de Beaufort, c'est un point clé pour dominer militairement cette région très montagneuse. C'est à 5 km à vol d'oiseau de la frontière israélienne. Cette prise de guerre permet à l'armée israélienne d'avoir une base solide en territoire libanais. Mais le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que cette construction médiévale, Apolline, eh bien, tout le monde se la dispute depuis plus de 900 ans.
À l'origine, qui a construit ce château ?
Alors, d'abord, il faut un peu de contexte. Nous sommes au XIIe siècle, l'époque où des chevaliers chrétiens et européens multiplient les croisades en Orient. Ces chevaliers, on les appelait les croisés, hein, normal, des croisés qui faisaient la croisade. Leur but, c'était reconquérir la Terre Sainte, donc la région du Christ, qui était en territoire musulman. Le point névralgique, c'était bien sûr Jérusalem, mais toute la zone faisait l'objet de combats, dont évidemment cette forteresse, qui était à l'origine une citadelle arabe. Les croisés s'en emparent en 1139, et c'est sur ce même site qu'ils vont construire un château fort, le château de Beaufort, donc le château que l'armée israélienne a repris hier.
Combien de temps vont rester ces chevaliers venus d'Europe ?
Plus d'un siècle, les croisés vont même créer un royaume chrétien en terre arabe qui s'appelait le royaume de Jérusalem. Beaufort en faisait partie. Alors le château va ensuite être repris par les arabes, puis repris par les croisés, et ainsi de suite, jusqu'en 1268, où un sultan très puissant, qui s'appelait Baybars, règle le problème pour de bon. Il assiège la citadelle et il chasse définitivement les croisés.
Et l'histoire ne s'arrête pas là.
Et non, puisque le château de Beaufort revient dans l'actualité, mais alors là, des siècles plus tard, puisque nous sommes dans les années 70, à l'époque, Israël et les pays arabes étaient en pleine confrontation, l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, transforme le château en base militaire contre Israël. Sa position stratégique leur permet d'envoyer des missiles directement sur l'État hébreu. Et à partir de là, conquérir Beaufort devient une des priorités de l'armée israélienne.
Et la forteresse va à nouveau changer de main ?
Et oui, ça recommence en 1982. L'armée israélienne parvient à ses fins. Elle lance un raid de grande ampleur avec des hélicoptères, beaucoup de soldats sur la citadelle de Beaufort. Une opération commando couronnée de succès. L'armée israélienne va occuper ce château pendant presque 20 ans, jusqu'à son départ du Liban en l'an 2000. Et depuis 2024, le château bénéficie d'un statut protégé par le droit international, celui de protection renforcée. En gros, ça veut dire que c'est un bien culturel qui doit être très protégé en cas de conflit. Bref, le château de Beaufort, c'est le symbole d'une région perpétuellement en guerre depuis 1000 ans. Et pour l'armée israélienne, cette conquête réalisée hier est une avancée militaire majeure.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin.